Réplique, la littérature et la condition animale, avec Isabelle Sorante et Jean-Baptiste Delameau. Dans Règne animal, Jean-Baptiste Delameau retrace, du début à la fin du XXe siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. 180 jours, c'est le temps qui sépare la naissance d'un porc de sa mort à l'abattoir, et c'est aussi le titre du roman d'Isabelle Sorante. Avec ses deux auteurs, la production animale entre ainsi dans la littérature. Et je voudrais, pour commencer, leur demander ce qui les a conduits à choisir un tel sujet et à lui donner une forme romanesque. Isabelle Sorante.
En fait, ce qui m'a conduit à choisir le roman, c'est tout d'abord une enquête de 1 an que j'ai fait dans ces, de 10 mois précisément, que j'ai faite dans ces élevages et dans un abattoir industriel. Donc j'ai suivi 2 ou 3 personnes en fait dans leur journée de travail, et c'était durant l'année 2009. Et je me suis très vite retrouvée avec un matériel documentaire absolument, je dirais, qui dépassait totalement mon jugement et ma rationalité. Et pourquoi l'enquête a duré 10 mois, ça a rapport avec votre question et le choix du roman, c'est que d'abord j'y étais allée pour une demi-journée dans un très gros élevage. Et puis j'avais un peu fait un tour, je dirais le tour autorisé aux visiteurs et aux journalistes. Et une semaine après, je me suis rendu compte que j'avais rien ressenti, que ce que j'avais vu dans ces longs couloirs et dans ces petites salles était tellement impressionnant que je ne savais pas vraiment que j'étais assommée, que j'avais rien senti. Et je me suis dit donc il faut y retourner pour comprendre, pour essayer de ressentir. Et je pense qu'en plus, la fenêtre de tir pour savoir ce qu'on ressent, d'où le lien aussi avec le roman, elle est extrêmement brève. C'est-à-dire que si on n'y va pas assez longtemps, en réalité, on ne verra rien, parce qu'on ne verra pas les accidents, on ne verra pas les cadavres qui sont traînés dans les couloirs, on ne verra pas, parce que c'est les accidents dans un monde technologique qui rejoignent la barbarie. Et en fait, si on reste trop longtemps, et moi ça m'est arrivé, au bout d'un moment, on ressent plus rien non plus parce qu'on se blinde. Et j'ai mis 1 an pour digérer tout ça, et je me suis rendu compte que si j'écrivais un essai, ça allait être quelque chose, ça ajouterait rien. Déjà aux très bons essais qui existent de Jocelyne Porcher ou de Safran Foer. Mais surtout, ça ne dirait rien des cauchemars que font les personnes, ça ne dirait rien des liens irrationnels que moi je faisais entre les burn-out que je voyais, je dirais entre la douleur sourde des êtres humains et la douleur criante des bêtes, entre la grisaille de nos villes où tout est gris, les bâtiments, les pigeons, les rats, et là les couleurs alchimiques qu'il y a dans ces bâtiments gris, c'est-à-dire le rouge du sang, le noir du lisier, le vert des algues vertes, et donc ces couleurs qui tout d'un coup explosent. Et j'avais besoin d'un vocabulaire qui ne soit pas sage, c'est-à-dire que pour faire crever ces mots gris comme produire, ou quand on dit produire dans ces structures-là, parce qu'on appelle ça des structures, on ne sait pas si produire ça veut dire faire naître ou faire mourir, c'est extrêmement condensé, pire que les 180 jours, c'est-à-dire le mot produire, derrière il y a une naissance, une vie, une mort, donc c'est comme s'il ne restait que le tirer sur une tombe en marbre. Et ben voilà, pour que ces mots redeviennent des couleurs, alors il fallait un roman.
Il fallait un roman, mais je précise ma première question, qu'est-ce qui vous a conduit, vous n'êtes pas, à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, issu d'une famille paysanne, vous n'avez pas vu évoluer de l'intérieur l'agriculture, vous n'avez pas assisté justement dans le monde paysan à cette espèce de tournant productiviste. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à cette enquête avant même de choisir pour la retracer, la voie du roman ?
Eh bien, en fait, je crois que c'est une sorte de deux choses. Je dirais une empathie avec toutes les bêtes noires, avec les gens qui souffrent, avec les gens qui sont têtes de turc, avec les plus faibles, une espèce de quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et aussi, justement, la profonde certitude que la manière dont on traite les bêtes noires, c'est en réalité la manière, c'est ça qui détermine toute une société. C'est ça qui détermine comment on vit. Et donc, je pourrais presque parler d'une sorte d'appel spirituel pour moi dans cette réalité extrêmement matérielle, extrêmement technologique et extrêmement morbide.
Jean-Baptiste Delamo,
oui, je suis très touché.
Quelle était votre trajectoire ?
Je suis très touché par cette idée d'une empathie pour les bêtes noires. Et effectivement, le cochon fait partie des bêtes noires par excellence, bien qu'il soit, on le sait aujourd'hui, si proche de nous. Et mon intérêt, cette empathie, cette affection pour le cochon en particulier, remonte aussi à l'enfance. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, et même si ça n'était pas dans un milieu d'élevage, c'était néanmoins un milieu rural, et j'étais confronté très tôt à la vision du cochon, de ce cochon qu'on élève dans une soue, qui ne voit jamais la lumière, sinon de manière très brève, quand on l'autorise à faire un tour dans la cour de la ferme, et qui plonge comme ça dans la lumière, aveuglé, terrorisé, mais enivré aussi par cette liberté très brève qu'on lui offre, et puis qu'on force à retourner à la soue en le frappant. Et de mon regard d'enfant, il se jouait là, dans cette relation d'asservissement et de violence, quelque chose qui me parlait de moi avant tout, parce que j'avais ce sentiment de faire moi aussi partie des bêtes noires, et donc c'était ce cochon était un miroir tendu aussi.
Pourquoi vous aviez ce sentiment de faire partie des bêtes noires ?
Parce que j'étais un enfant assez différent. En tout cas, qui vivait le sentiment d'une différence, et que finalement dans cette relation avec le cochon, je transposais sans doute quelque chose de mon propre vécu. Donc cet animal m'a touché, m'a accompagné tout au long de ma vie. Et puis il y a quelques années, j'ai aussi eu l'occasion de visiter un élevage et de rentrer au petit matin dans un bâtiment d'engraissage. Et là, j'ai été submergé par une violence à laquelle je ne m'attendais pas, qui n'était pas une violence de l'incident, comme vous en parlez très bien, mais une violence de la quotidienneté, à savoir plusieurs centaines de porcs qui hurlent pour atteindre une portion, qui se battent pour atteindre une portion de nourriture qu'on va leur jeter par-dessus des enclos. Donc une violence sonore, olfactive aussi, puisqu'un bâtiment qui est resté fermé pendant une nuit, un bâtiment d'élevage, c'est absolument suffocant. Et puis, soudain, cette masse d'animaux que je, en tant qu'humain, je suis bien incapable de distinguer, m'est apparu non pas justement comme un groupe indistinct, mais comme une assemblée de soi, de d'êtres qui avaient eux aussi une perception subjective de l'instant que moi je vivais en progressant dans cette allée. Et finalement, il m'a semblé qu'il se jouait là, dans le cadre de l'élevage, et plus largement de l'exploitation de l'animal par l'homme, quelque chose de l'ordre d'une violence primitive, qui, par extension, je crois, s'est étendue à l'ensemble des êtres vivants et à nos semblables aussi.
Alors, violence primitive, le terme est paradoxal, parce que, avec ce tournant productiviste auquel je faisais référence tout à l'heure, on voit, en quelque sorte, la technique s'emparer de l'agriculture et de l'élevage. Tout relève du fonctionnement et l'on passe de l'élevage fermier à ce que Jocelyne Porcher, que vous avez cité tout à l'heure, appelle la production animale. La terminologie est celle de la technique, oui. C'est-à-dire elle euphémise la réalité. On ne parle pas de mort. On est effectivement dans l'univers du fonctionnement. Donc il y a une rupture quand même avec justement une tradition millénaire. On est très loin du primitivisme. Mais avant de savoir si cette rupture est est ou non un retour à une brutalité plus archaïque, j'aimerais que l'un et l'autre, vous nous décriviez, c'est un peu le sujet de vos livres, une porcherie. Voilà, faites-nous visiter ces bâtiments, ces structures, comme on dit. Isabelle Sorand, puis Jean-Baptiste Delameau.
Alors en fait, il faut imaginer que vous arrivez au petit matin, parce que tout commence très tôt. Et déjà, c'est souvent dans des zones industrielles, un peu cachées, et tout d'un coup, il y a un paysage, et on dirait, vous savez, les carrés noirs qui cachent les yeux des assassins sur les photos de faits divers. Donc vous voyez, par exemple, quatre carrés. Et puis l'odeur, ça n'est pas une odeur de fumier ou une odeur de sang. C'est une odeur chimique, en fait, qui vient de mélange de... essentiellement de la soupe, en fait, de la nourriture qui passe à travers les tuyaux. Ensuite, quand vous arrivez, vous prenez une douche, en fait, pour... y a une douche à l'entrée et une douche à la sortie, parce que les animaux sont extrêmement fragiles. Ils sont conçus à l'intérieur, ils passeront leur vie à l'intérieur, et ils iront faire un petit tour dans le camion qui les mènera jusqu'à l'abattoir qu'on appelle l'outil le jour de leur mort. Donc vous prenez cette douche et vous avez une combinaison et vous devez...
C'est l'abattoir qui s'appelle l'outil.
L'abattoir s'appelle l'outil.
Ah oui, c'est ça, oui, c'est toujours pareil.
Oui,
hein.
Oui.
Un vocabulaire qui dissimule la réalité de la mort.
Et pas seulement la réalité de la mort, je dirais la réalité de la violence. Voilà. Moi j'ai une grand-mère aussi qui a été élevée dans une ferme en Tunisie, et c'est quand je lui racontais ça, elle pleurait. Donc, en fait, ensuite, vous devez enlever vos bijoux, tout, parce qu'il faut laisser dans le vestiaire tout ce qui pourrait amener des microbes. Et là, vous avez l'impression d'être un extraterrestre. Et la première chose que j'ai pensée quand j'étais restée une semaine à travailler en double avec quelqu'un, envers qui j'ai une extrême gratitude. Eh bien, en fait, il y a deux choses qui m'ont frappée et qui sont deux choses irrationnelles. Donc, moi, c'était les deux élevages que j'ai visités. À chaque fois, c'était 9000 truies. Enfin, c'était donc des choses énormes. Et eh bien, quand vous rentrez dans une salle où vous avez 250 animaux, vous captez un œil de temps en temps, c'est terrifiant. Vous avez l'impression que c'est une masse, comme un élément, comme la mer. On n'est pas habitué à voir autant d'animaux. C'est terrifiant, autant d'animaux parqués dans un endroit. Et surtout, ils se mettent tous au garde à vous. C'est-à-dire qu'ils sont en train de bouger, de frémir, ils ont peur, ils grattent pour de la nourriture, ils grattent ce qui n'est pas de la terre, mais du béton. Et tout d'un coup, quand vous entrez, c'est comme s'ils se mettaient, boum, statue. Genre, les officiers arrivent. Et je vous assure que moi, ça, c'est quelque chose de très
garde
angoissant.
À vous, en quelque
oui,
sorte.
Garde à vous. Exactement, c'est ce qui arrive. Et donc, après, quand ils voient, c'est comme si en eux-mêmes ils entendaient repos et ils se remettent à bouger parce qu'ils voient que bon, on leur fait rien cette fois-ci. Il y a ça, il y a la radio qui passe dans le couloir en fait. Les couloirs sont interminables et il y a une radio qui raconte des chansons, enfin une radio de variété quoi, pour un peu détendre l'atmosphère. Il y a des hurlements et puis les animaux ont des numéros, mais ils ont même pas de numéro individuel. Il y a les reproducteurs qui ont des numéros individuels et les autres ils ont un numéro de lot parce que de toute façon ils n'auront jamais d'existence individuelle. Et donc il y a très peu d'humains, c'est-à-dire que souvent on va vous dire que c'est des entreprises familiales. Mais c'est pas vrai, c'est qu'il y a des entreprises où il y a 4 ou 5 personnes qui font tourner une ville de 15 000 animaux en vérité, c'est ça la réalité. Une ville divisée en plusieurs bâtiments qui sont segmentés, exactement comme peuvent être segmentés les différents bureaux d'une grande entreprise,
segmenté
genre Enron.
Sur quels critères, c'est-à-dire
segmenté sur, je dirais, le critère de taille et la manière dont on va distribuer la nourriture.
Puisque... Il y a aussi le bâtiment pour la gestation,
oui.
C'est ça ?
Alors, et en plus, c'est des mots qui sont très trompeurs, parce que ce qu'on va appeler maternité et soins aux petits, c'est en fait, maternité, c'est un endroit où les truies sont mises dans des cages en fer, soi-disant pour pas faire mal à leurs petits, parce que comme elles deviennent folles, il y en a certaines dont j'ai eu le sentiment qu'elles préféraient les tuer plutôt qu'ils vivent ça. Et ça n'est pas de l'anthropomorphisme, c'est vraiment quelque chose qui paraît logique quand on le voit. Et surtout, les soins aux petits, qu'est-ce que c'est ? C'est leur arracher les dents et les castrer, et ça s'appelle soins aux petits.
Ça, c'est dans la maternité ?
Ça, c'est dans la maternité.
Et après la maternité,
ils deviennent un peu plus gros, et ça n'est jamais des individus, c'est une espèce de flux, j'allais dire de flux humain, de marée qu'on déplace dans un autre bâtiment. Les personnes qui travaillent et qui sont des gens respectables, comme vous et moi, savent Et en même temps, on est obligé de se cliver, même moi qui étais de passage, qui ai passé en tout 10 mois avec des interruptions, on est obligé parce que sinon on ne peut pas juste être là. Et donc on se blinde. Et en fait, il y a une sensation que ces immenses couloirs où on entend des bruits un peu comme dans le film Claire Dolan, vous savez, des bruits d'aération, on attrape des conjonctivites, on attrape des quintes de tout, parce qu'il y a plein de petites particules, de temps en temps on va treuiller un cadavre, mais il y a surtout le sentiment que c'est des endroits hantés. C'est-à-dire qu'il y a tellement de milliers d'êtres vivants qui sont passés, qui sont allés sur le quai d'embarquement, qui ont pris le camion, que parfois on est le seul humain qui passe pour regarder par les hublots les blessés ou ceux qui vont partir à la réforme signifiant la mort, dans un abattoir un peu plus loin, parce qu'on prend pas de gants pour ceux qui sont de la mauvaise viande, eh bien, en fait, on a l'impression que c'est hanté. C'est très effrayant.
Et que deviennent les porcelets après la maternité? Ils vont dans quel bâtiment?
À l'engraissement, hein, comme dans Hansel et Gretel. Moi, c'est des endroits
où... Alors, il y a maternité, engraissement, et puis quoi d'autre?
Alors, pardon, il y a maternité, c'est un peu moins récent que pour Jean-Baptiste Delamau, mais moi, il y a maternité sevrage, post-sevrage, donc c'est petit à petit. Je dirais que la nourriture représente la progression de carrière pour ces ouvriers qui finiront très mal. Donc, la nourriture, c'est un petit peu leur progression de carrière, donc à maternité, sevrage, post-sevrage, engraissement, c'est là où ils sont gavés, en fait. Et ensuite, il y a le quai d'embarquement et ensuite l'abattoir.
D'accord. Et ils sont... comment sont-ils? Est-ce qu'ils sont séparés ou est-ce qu'on
séparés entre hommes et femmes.
Séparés entre hommes et femmes, et donc ils sont ensemble dans un espace de
minuscule. En fait, c'est un petit peu comme un immense hôpital où vous auriez
avec salle commune alors.
Oui, un grand couloir et dans chaque salle 40 malades entassés sans lit, hein. Et les hommes et les mâles et les femelles sont séparés. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas le même rythme pour manger, et donc c'est plus rentable.
Les élevages que j'ai visités étaient de taille plus modeste que ceux que vous avez, ceux dans lesquels vous avez pu visiter. C'était notamment certains élevages étaient labellisés bio. Mais aujourd'hui, il faut savoir que un certain nombre d'éleveurs choisissent le bio non pas par conviction, mais simplement parce que ça représente aussi une manne financière, en tout cas la possibilité d'échapper à la crise qui est celle de l'élevage industriel aujourd'hui. Donc c'était des élevages de taille plus modeste, dans lesquels le travail, la chaîne de production, parce qu'il s'agit bien de chaîne de production, était peut-être moins divisée. Et on sait justement combien le fait, cette division des tâches permet aussi finalement de se blinder émotionnellement en intervenant que sur une partie bien spécifique de la production. C'est le cas aussi dans les abattoirs. Le gars qui est à la tuerie n'est pas celui qui va être au découpage, etc. Donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais de violence primitive et vous évoquiez ensuite le travail de Jocelyne Porcher pour lequel j'ai une réserve parce qu'il me semble que ce qui m'apparaît aujourd'hui très important c'est véritablement la question de la souffrance qui avait été évoquée par Jérémy Bentham qui avait dit la question n'est pas de savoir peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler. Mais peuvent-ils souffrir?
Et oui, c'est sa réponse à Descartes, et une réponse qui a d'autant plus de force et de valeur aujourd'hui que la zootechnie, effectivement, a pris Descartes au mot. C'est-à-dire Descartes parle d'animaux-machines, et la modernité a transformé les animaux en véritables machines. Donc, c'est là tout d'un coup que la réponse de Bentham prend toute sa force et toute sa valeur. Mais il me semble que Jocelyne Porcher, nous allons revenir à ses travaux, est très sensible à cette dimension-là de la souffrance animale.
Je crois simplement l'alternative qu'elle propose ne fait pas l'économie de la mise à mort de l'animal, ce qui était aussi le cas dans l'élevage traditionnel. Mais ça effectivement, c'est une...
Ah ben non, si vous en parlez tout de suite, alors tant pis, ça dérange un peu le plan de l'émission, mais parlons-en. Parce que j'ai lu votre livre Jean-Baptiste Delamau, c'est un très beau livre, avec une force, c'est une sorte de long, d'immense poème en prose, mais c'est un livre, c'est un roman totalement désespéré, pas une once d'espérance, pas un petit filet de lumière, tout est noir du début à la fin, on patauge dans la boue, dans les excréments. Et justement, la rupture est indiquée. C'est-à-dire que le roman se passe en deux parties. Mmh. Avant la Première Guerre mondiale, une ferme. Et puis, il y a une ellipse. Et nous nous retrouvons en 1981, où les descendants des personnages que l'on a vus se développer, agir dans la première partie, eh bien, sont à la tête d'une porcherie industrielle. Mais il n'y a pas d'espoir parce que ce qui était au début était aussi extrêmement violent. La génitrice, femme absolument terrible, eh bien, il lui arrive au tout début du livre de mettre bas dans la soue, d'abandonner le bébé dont elle ne veut plus, qui est dévoré par les truies. Donc on ne peut pas être pris d'affection pour le cochon à ce moment-là. Et puis surtout, on se dit, ben alors il n'y a pas d'issue. C'est-à-dire que, ou la seule issue que l'on imagine en lisant votre livre, c'est d'en finir avec l'élevage, avec la domestication des animaux, de passer radicalement à autre chose, sans doute de cesser de manger de la viande, mais alors cela signifie l'extinction de l'animal, et peut-être même la fin de la paysannerie au profit d'un univers, si vous voulez, qui serait celui d'une nourriture totalement produite par la chimie. Mais Jocelyne Porcher, elle maintient la nécessité d'un retour face à ce qu'elle refuse d'appeler l'élevage industriel et qu'elle appelle la production animale, un retour à l'élevage fermier. Mais on a l'impression que vous fermez cette porte, justement, avec le début du livre, parce qu'on n'a pas envie de ça non plus.
Oui, effectivement, je crois que, alors pour moi, d'une part, la question centrale est celle de la souffrance animale et que lorsqu'on se confronte à cette question-là, cela nous enjoint à un exercice d'imagination morale. Que pourrait être un monde dans lequel l'homme ne dominerait pas l'animal. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, ce retour à un élevage traditionnel n'est plus possible, pour la bonne raison déjà que la majeure partie des élevages aujourd'hui sont des élevages industriels. 90% des animaux élevés en France ne voient jamais la lumière du jour. Donc voilà, je pense qu'effectivement, dans les prochaines décennies, nous serons amenés à nous questionner sur notre consommation de la viande et sur cet asservissement de l'animal. Sur la question de la disparition des espèces, je crois effectivement qu'il faudra accepter l'idée que certaines espèces puissent disparaître. Quand on prend par exemple les large white élevés en élevage intensif, ce sont des bêtes débiles, ce sont des animaux qui ont été modifiés par sélection génétique, qui sont dépourvus de système immunitaire, qui ont une croissance si rapide qu'au-delà de un an, leurs articulations ne supportent plus le poids de leur corps. Ce sont des truies qui sont devenues si prolifiques que bien souvent elles présentent des pathologies utérines passées un an également. Donc ces animaux-là, comme certaines espèces de vaches que vous avez déjà vues en photo, qui sont extrêmement musclées parce qu'elles ne fabriquent plus que du muscle, plus que de la viande et non plus de gras, ces espèces-là, il faut éventuellement concevoir qu'elles puissent disparaître. Après, et c'est une autre question, il faudrait repenser la manière dont nous pourrions cohabiter et préserver des espèces animales. Et quand on voit le rapport qui vient d'être publié par WWF sur la disparition des vertébrés à travers le monde, je pense qu'il est urgent de se poser ces questions-là.
Bon, j'aurais beaucoup de questions à vous poser encore, mais Isabelle Sorrente, comment concevez-vous, est-ce que vous pensez, après avoir fait cette enquête, après avoir écrit ce roman, qu'il y a une alternative à cette forme de production animale, ou bien est-ce qu'il faut consentir, pour nous, à une transformation, à cesser d'être carnivore, au risque d'accélérer l'extinction des espèces que pendant des millénaires l'homme a mangé.
Alors je suis très touchée par cette question parce que je pense qu'en réalité elle est d'une profondeur justement mais spirituelle. C'est-à-dire que quand j'avais fait l'enquête, je ne me sentais pas, j'avais pas envie Je continuais à manger de la viande en pensant à chaque fois à l'animal. Et j'en étais extrêmement consciente. Ce qui m'a d'ailleurs conduit à limiter très très singulièrement ma consommation de viande. Mais j'avais pas envie de perdre cette conscience. Et je sentais que, je dirais moi, personnellement, j'étais intégrée à cette chaîne de... Comment dire ça? De cruauté naturelle. Et je voulais pas la résilier parce que les alternatives dont j'avais la connaissance, c'était de la viande artificielle et des choses qui, personnellement, me semblaient aller dans le sens de la technologisation, de l'aseptisation. Je pense que derrière ça, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça nous dit de notre humanité et comment on veut vivre. Moi, je pense que ça va aussi avec la disparition de la mythologie, par exemple. C'est-à-dire que nos grandes religions, les religions égyptiennes ou même le christianisme, étaient peuplées d'animaux. Alors aujourd'hui, que ferait saint François d'Assise ou comment on écrirait le bestiaire du Christ ou comment les Égyptiens auraient une religion. C'est-à-dire que, toutes ces marques comme Puma, toutes ces publicités où on voit des loups ou des choses qui n'existent plus. Donc en fait, moi, ça m'avait plutôt rempli d'une espèce de... Je crois que je me sens très proche d'un optimisme tragique à la Viktor Frankl, c'est-à-dire que j'ai conscience que la tragédie est là, qu'il y a un problème qui, en fait, pour moi, dépasse la question de notre équilibre alimentaire. Jocelyne Porcher, pour moi, a raison de dire que le lien entre l'homme et le travail de l'animal, parce qu'elle parle de travail de l'animal, oui. Je trouve ça très intéressant, est rompu dans les structures de production industrielle, mais je pense que c'est encore plus grave que ça, c'est-à-dire que sont rompues aussi toutes les figures du bon pasteur, toutes les figures de Dieu qui est soit le Dieu pasteur ou même les dieux de type Dionysos qui étaient les liens entre l'humanité et le règne animal, et qu'avec la rupture de toutes ces figures-là, il se passe quelque chose pour notre esprit, pour notre terre spirituelle qui est extrêmement grave, et à mon avis c'est très lié aussi à des problèmes comme le burn-out, c'est-à-dire qu'on impose à notre propre esprit la même chose qu'on impose à la terre. On met notre esprit sous structure de production intensive.
Mais quand même, la question reste celle de l'alternative. Et moi, je suis frappé par la radicalité des militants de la libération animale, car ceux-ci ne font plus la distinction entre la production animale et l'élevage, puisque, aux yeux de ces militants, l'animal domestique, c'est aussi, d'une certaine manière, un esclave. Alors que là, justement, il y a une tradition, tout de même, à laquelle on ne peut qu'être sensible, fait que depuis le néolithique, l'homme n'est plus seulement un prédateur et un consommateur, il assiste, il protège, il coexiste longuement avec des espèces qu'il a domestiquées. Alors, si la libération animale ne fait plus cette distinction-là, où nous conduit-elle? Vous dites, Jean-Baptiste Delamo, qu'il faut se résigner à la disparition de certaines espèces, mais il n'y aura plus du tout de cochons si on décide de libérer le cochon, et il n'y aura plus du tout de vaches non plus, parce que les vaches n'ont pas vocation à vivre en liberté. Ces animaux ne sont pas des prédateurs, ce sont des proies. Donc, sous prétexte de libérer les animaux, on va accélérer, on va rompre tous les liens qui demeurent entre l'homme et l'animal et accélérer la disparition des bêtes. C'est là, me semble-t-il, la fondamentale contradiction de la libération animale. Et j'ai ressenti, tout en admirant beaucoup votre livre, un certain malaise parce que je me suis dit... Si vraiment le monde paysan, c'est ça, alors oui, il faut absolument tourner la page et, l'humanité, ouvre une toute autre époque. Jean-Baptiste Delamo.
Oui, je comprends votre questionnement, mais parce que je pense que il ne s'agit pas de tirer un trait sur des millénaires de domestication et de vie en commun avec certaines espèces animales, mais de réinventer ce lien. Et réinventer ce lien, c'est aussi faire preuve d'une part de responsabilité, et je crois qu'il serait possible de concevoir la préservation de certaines espèces tout en leur rendant, attribuant des droits fondamentaux dont le droit à la vie, ce qui nécessiterait notamment au niveau des écosystèmes de prévoir des zones qui seraient dédiées à ces espèces de vaches ou de cochons. Aujourd'hui, 70% des terres cultivées dans le monde, en particulier pour le soja, le sont à destination unique de la consommation animale. Quand on sait aussi l'impact écologique de l'élevage qui est désastreux, je crois que véritablement il faut se questionner sur tous ces aspects-là, à la fois en vue d'une meilleure répartition des richesses à travers le monde. Il y a plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, et pour fabriquer 1 kilo de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau. À un moment donné, ça pose véritablement des questions éthiques, à la fois sur l'environnement, la préservation des écosystèmes, et puis aussi sur la question de l'animal et de la souffrance animale.
Alors, je vais vous lire l'extrait d'un article de Jocelyne Porcher, justement, publié il y a 2 mois dans Causeur. J'aime les cochons, mais j'aime aussi la côte de porc gascon ou limousin, ou d'une autre des 6 malheureuses races locales qui ont survécu à l'industrialisation de l'élevage. Derrière le terme cochon, il y a en effet des races et des territoires, des animaux en accord avec des humains. Il y a des savoir-faire d'éleveurs et d'artisans bouchers et charcutiers. La viande d'un cochon de bonne race, bien élevée et tuée dignement, est un régal sans équivalent. Est-ce que vous rangeriez ce type d'analyse, de raisonnement, dans la même rubrique que la cruauté que vous nous avez décrite très éloquemment tout à l'heure?
Oui, c'est-à-dire que je pense que Jocelyne Porcher accepte le destin tragique, en fait, de l'humain. Moi, ce qui m'a parfois inquiété, alors après, moi, j'ai pas de solution concrète. Je ne sais pas si, par exemple, parfois, pour changer un peu, il faut pas passer par un mouvement un peu radical pour qu'ensuite un nouvel équilibre puisse se faire. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a tout simplement pas les clés pour savoir quel sera l'équilibre de demain. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi, je ne suis pas non plus en faveur par exemple, de certaines positions de PETA ou de la viande industrielle. Enfin, la viande, je veux dire, produite sur bâtonnets en laboratoire, tout simplement parce que ça me semble une négation du destin tragique de l'être humain. Et je trouve que Jocelyne Porcher, elle a le mérite de dire, bon, bah, je fais partie de cette chaîne et justement, je suis dans cette chaîne de vie et de mort. Il y a des éleveurs qui, aujourd'hui, réclament le droit d'abattre eux-mêmes leurs bêtes.
Oui, de plus en plus.
Voilà, ils ne veulent pas qu'elles aillent à l'abattoir industriel. Moi, je trouve que ces démarches-là, elles ont quelque chose de courageux parce qu'en fait, ils vont se mettre à dos tout le monde. Ils se mettent à dos les personnes qui sont dans les structures de production industrielle et les personnes qui sont, je dirais, des militants. Comment dire ça, qui voudrait quelque chose de pur tout de suite, voilà. Moi, je crois que je suis pour la radicalité quand on a conscience qu'elle n'est pas en elle-même une solution. La radicalité est bonne parce que c'est une passerelle vers le nouvel équilibre. Mais en soi, moi, j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui sont végétariens pour perdre du poids ou pour leur santé, pour des tas de raisons qui n'ont pas à voir avec cette empathie de base. Et donc, je méfie toujours de la pureté.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une empathie abstraite de la part des citadins avec des animaux qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils n'ont jamais vus grandir, dont la mise à mort leur fait horreur, et qui ont tendance, ce faisant, à tirer un trait, étant donné le monde dans lequel ils vivent, sur 10 000 ans d'histoire partagée avec les animaux, c'est-à-dire une part essentielle de notre humanité. Il y a quand même, dans ce militantisme-là, quelque chose qui est aussi hors sol que l'élevage, dont vous avez décrit des horreurs l'un et l'autre. Mmh. Jean-Baptiste Delamo.
Vous savez, quand Jocelyne Porcher dit que les animaux sont en accord avec les humains, je pense que ça aussi c'est une construction de l'esprit. Les animaux, comme nous, ont intérêt à préserver leur vie et ils ne sont certainement pas en accord dans l'exploitation qui est faite d'eux. Quand elle parle aussi de tuer dignement, on a vu récemment qu'il était impossible de tuer dignement. Qu'est-ce que ça veut dire, tuer dignement? Aujourd'hui, il n'existe pas de méthode d'abattage qui nous garantisse que l'animal ne souffrira pas. Ça aussi, c'est à mettre dans la balance. C'est aussi à réfléchir. Et cette question du retour de l'abattage à la ferme, ça pourrait être séduisant parce qu'effectivement, ça permettrait d'économiser notamment les transports, le stress aux animaux. Mais étant donné que les élevages sont majoritairement aujourd'hui des élevages intensifs, ce qui va se produire, c'est qu'on va répéter à l'arrière des élevages des abattoirs qui n'en seront pas moins industriels, puisqu'il faudra de toute façon abattre à la chaîne. Et ces derniers mois, on a vu révéler de nombreuses enquêtes sur des abattoirs dans lesquels ont été relevés de graves dysfonctionnements et de graves violences. Ce n'étaient pas des abattoirs industriels, c'était des abattoirs labellisés bio, labellisés label rouge, des abattoirs de proximité. Et ça montre finalement que la question fondamentale, c'est celle de l'abattage, c'est de l'impossibilité d'épargner la souffrance aux animaux à l'instant de l'abattage.
Oui, mais refuser de leur donner la vie pour leur épargner la souffrance, c'est aussi un choix dont la radicalité peut effrayer, d'une part, puisqu'en effet, je ne vois pas pourquoi il y aurait des cochons s'il n'y a plus d'avenir, s'il n'y a plus de filière porcine. Donc, si on ne mange plus de porc, il n'y aura plus de cochons. Et de même, autre question, c'est-à-dire, il y a une préférence, justement, dans l'écologie, pour les animaux sauvages, qui ont quand même plus de lustre que les animaux domestiques, le loup, l'ours, le vautour, la marmotte. Ce qui fait que lorsque un éleveur de porc en plein air est aux prises avec des corbeaux qui attaquent les porcelets, leur crèvent les yeux et les vident par l'anus, eh bien, il ne sait plus quoi faire parce que, aux yeux de certains et d'associations, de maires, etc., c'est comme si les porcelets représentaient la part du corbeau. Donc, n'avons-nous pas un devoir envers les animaux domestiques? Et le premier devoir, d'ailleurs, c'est effectivement de perpétuer une relation avec eux qui soit une relation digne de ce nom, Isabelle Sorrente.
Ça, je pense que c'est sûr que dans la mesure où l'animal domestique, on l'abstrait de la chaîne proie-prédateur et on le dépouille de ses défenses pour ensuite pouvoir le manger, il faut le protéger des prédateurs qu'il ne peut plus affronter seul. Je crois aussi que il y a quelque chose, enfin, dont j'ai envie de parler en plus, c'est que je pense quand même aux hommes qui travaillent dans ces structures. Oui. Et je pense qu'il faut en parler. Parce que sinon, on a l'impression que nous, on est loin ou qu'on va juger et qu'eux sont le mal, alors qu'ils sont exactement comme nous. Et je pense qu'on a créé des zones où le bien et le mal se retournent. Moi, quand j'étais dans ces élevages, j'étais très frappée de voir que les hommes qui avaient le plus de courage, c'est-à-dire ceux qui allaient dire « tant pis, je perds du temps pour abattre une bête qui souffre, parce que sinon, cet animal mettra 24 heures à agoniser et je préfère qu'il en mette qu'une ou que ce soit fini tout de suite. » Moi, j'avoue que c'est ce qui me paraissait la chose humaine. Eh bien, en fait, ça se retourne parce que ces personnes-là deviennent bientôt celles à qui on va confier le sale travail. Et je pense que ce retournement, pardon d'insister, mais il est très symptomatique du refus de tragédie dans notre monde. Et alors, je dirais que les corbeaux qui vont crever les yeux, j'avoue que je sais pas, je pense qu'on peut pas dire c'est bien ou c'est mal. Je pense qu'il faut protéger les animaux domestiques à partir du moment où on les domestique, mais c'est surtout que la tragédie fait partie de notre condition.
Oui, mais il y a peut-être, nous avons peut-être des devoirs envers ces animaux, mais en tout cas, ce que vous décrivez l'un et l'autre, c'est un monde où le lien avec les animaux est absolument rompu. Mmh. On entre dans l'univers du fonctionnement. Et vous avez cité tout à l'heure Isabelle Sorrente, Jonathan Safran Foer, oui, qui est romancier, mais qui a choisi l'essai. Mmh. pour parler de tout ce qui nous occupe. Faut-il manger les animaux ? Et je voudrais vous en lire un extrait et pour savoir si ça correspond à ce que vous avez vu et vous-même décrit. Elle parle d'une truie en gestation. Son incroyable fertilité est la source de l'enfer qu'elle vit. Si une vache donne naissance à un seul veau à la fois, la truie d'élevage industrielle moderne peut accoucher de près de 9 porcelets qu'elle nourrira et élèvera, un nombre que les éleveurs industriels s'efforcent d'augmenter d'année en année. Elle est invariablement maintenue, autant que possible, en état de grossesse, autrement dit pour le restant de ses jours. Quand elle arrive à terme, on lui injecte des drogues afin de déclencher le travail au moment le plus pratique pour l'éleveur. Une fois ses porcelets sevrés, la truie, grâce à des hormones, est rapidement amenée à reprendre son cycle afin d'être prête à être de nouveau inséminée artificiellement en seulement 3 semaines. Dans 80% des cas, une truie passe les 16 semaines de sa grossesse enfermée dans une cage de gestation si étroite qu'elle ne peut même pas se retourner. Sa densité osseuse diminue du fait de son manque de mouvement. Privée de litière, elle développe souvent, à force de se frotter contre les parois de la cage, des blessures de la taille d'une pièce de monnaie, noirâtres et suintantes de pus. Plus graves, mais aussi plus insidieuses, sont les souffrances qu'engendre l'ennui, l'isolement, le refoulement du puissant désir de la truie de se préparer à l'arrivée de ses petits. Dans la nature, elle passerait le plus clair de son temps, avant l'accouchement, à fourrager pour bâtir un nid d'herbe, de feuilles ou de paille.
Mais c'est pire que ça, c'est pire que ce qui décrit la réalité, parce qu'en fait, les truies maintenant, elles en mettent 13 ou 16 au monde des petits, donc il y en a qui sont ce qu'on appelle même momifiés, qui meurent dans le ventre et qui font comme des petites pierres, c'est assez abominable. Et ensuite, en fait, il faut voir que les animaux sont considérés comme des machines à protéines. Voilà. Si on comprend ça, c'est pire que l'animal machine de Descartes. C'est des boîtes noires à protéines. Et tout est calculé. C'est-à-dire que si vous voulez faire un élevage porcin demain, c'est très simple. Vous prenez le cycle de fertilité de la truie et ça vous déroule des équations très très simples pour construire tous les bâtiments. Et en fait, la truie, c'est pas des petites blessures d'une taille de la pièce de monnaie, c'est que elle devient folle, elle n'arrête pas de hurler parce qu'il y a quelque chose qui est allé désanimaliser. Tout l'instinct est pris à rebours. C'est-à-dire que normalement, elle va gratter le sol pour trouver de la terre, elle trouve du béton, donc son groin est ensanglanté. Les petits, à peine ils naissent, ils sont répartis d'une manière productive, c'est-à-dire les plus gros sont mis sous les truies les plus grosses, les plus petits sous les truies les plus petites. Donc toutes les portées sont mélangées. Et donc en fait, on réduit... je dirais, il n'y a plus de truies, il n'y a plus de femelles, il y a quelque chose qui est vu comme une boîte à protéines, c'est tout. C'est pire que ce qu'il dit.
Mais là, je voudrais que nous nous arrêtions à deux cochons particuliers, si vous voulez. Voilà, il y a Marina, dans votre roman Isabelle Sorrente, et dans le vôtre, La Bête. Alors, présentez-nous Marina, Isabelle Sorrente.
Alors, Marina est une truie, inspirée d'une vraie truie d'ailleurs, qui parmi les 15 000 bêtes en tout, enfin, de cette unité de production et les 900 truies qui génèrent donc 15 000 bêtes par an, a une particularité, c'est que ses yeux sont maquillés naturellement. Elle a comme un trait d'eyeliner. Et du coup, ça va conduire les hommes qui travaillent là à lui donner un nom. Ce qui est l'erreur fatale, en fait, qui va amener à tout, comme le grain de sable qui va faire déraper toute la machine de mort. Et parce qu'à partir du moment où il donne un nom, c'est aussi un animal très malin, comme on en trouve parfois. Hein. Il y a des gens intelligents, il y a aussi des animaux qui sont supérieurement intelligents.
Et on dit que les cochons, en général, sont très intelligents.
Oui, et puis moi, j'ai vraiment vu une truie comme ça, qui se débrouillait toujours pour sortir de ses liens en fer, enfin une espèce de Houdini. Donc du coup, elle touche les hommes autour, mais d'un seul coup, il suffit qu'il y ait un individu qui apparaisse dans les animaux pour leur rappeler que tous les autres en sont aussi. Et donc Marina, c'est aussi une truie qui va mettre à mort ses enfants. Enfin, ça, c'est et qui va refuser de se laisser. Quand les truies deviennent folles dans les élevages, moi, il y a une chose que j'ai vue plusieurs fois, on leur donne des gros calmants pour pas qu'elles s'énervent et qu'elles tuent pas la future viande. Et moi, une fois, j'en ai vu une qui on avait beau lui mettre des doses et des doses de calmant, elle continuait à vouloir, elle ne tombait pas et elle est tombée tout d'un coup au bout d'une dose pour éléphant. Et donc voilà, c'est une truie qui tout d'un coup ayant une individualité ayant une brutalité, va bouleverser tout le monde et c'est la truie par laquelle tout s'écroule. Hein.
Oui, mais en même temps, il lui arrive à un moment donné, à Marina, de mettre à mort
tous ses petits.
Tous ses petits, et vous supposez dans le livre qu'elle veut leur épargner le destin atroce qu'il leur est promis.
Écoutez, oui, et j'assume cette supposition parce que j'ai vu des choses comme ça qui ont été très troublantes. Et en fait, il y a une sorte, on sent, je ne peux pas le justifier, mais on sent un désarroi qui vous multipliez par un million les chiens qui hurlent sous la lune, des fois dans la campagne. On sent un désarroi total. Et oui, ces animaux se demandent où vont leurs petits. Et je pense que dans la folie, il y a parfois le sentiment qu'ils préfèrent ça que quelque chose d'autre. Dans l'autre chose très troublante que j'ai vue, qui n'était pas liée à cette truie Marina, mais qui était liée à des truies aussi, c'est des animaux qui tout d'un coup ont peur du soleil. Il y a une ombre, ils voient tellement peu le jour qu'ils sont transférés entre deux bâtiments, et il y a une ligne d'ombre qui s'arrête, et ils ont peur du soleil. Exactement à l'époque, il y avait cette femme-là, Elisabeth Frisell, qui avait été retenue oui. avec ses enfants, et ils ont eu peur du soleil, et il y en a un qui a, quand ils sont sortis pour la première fois de leur cave, un qui a vu la lune et qui a demandé aux policiers « Est-ce que c'est Dieu ?» Et en fait, ces animaux ont peur des choses qui normalement devraient faire leur quotidien. Voilà.
Alors maintenant, parlez-nous, Jean-Baptiste Delameau, de ce cochon terrible,
de
ce
verra,
qui s'appelle la bête,
oui,
et qui participe à l'effondrement général de la porcherie.
C'est un verra spectaculaire qui fascine le propriétaire de l'élevage et qui va malgré tout réussir à s'échapper du bâtiment dans lequel il est contenu et qui va regagner la nature et peu à peu devenir un animal presque mythologique, en tout cas retrouver ses attributs d'animal sauvage. Ce qui est marquant, c'est que quand on se retrouve dans un élevage devant plusieurs centaines de cochons, il est très difficile de nouer un lien avec un animal voilà. en particulier. Et pourtant, c'est assez régulier dans les élevages. Un animal va se distinguer du lot, soit à cause d'une caractéristique physique, soit par une intelligence particulière. Et finalement, le lien va s'établir. Alors que tout est fait pour empêcher finalement ce lien-là. Et le regard, bien souvent, de l'homme sur l'animal est alors déporté. Finalement, on le voit enfin comme un être singulier avec sa subjectivité, sa personnalité aussi. Et les histoires ne sont pas rares d'ailleurs d'éleveurs qui finalement ont pris conscience à travers une relation particulière avec un animal de la violence de ce système dont eux aussi sont victimes. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler et qui ont fait le choix même de quitter parfois l'élevage, de renoncer parce que voilà, ça a été une prise de conscience, une forme de révélation. Ils ont été dessillés par le lien particulier qu'ils ont été avec un animal.
Ah oui, c'est ça. Et ce que vous dites aussi, Isabelle Sorrent, dans votre livre, c'est que les larmes ne sont pas le propre de l'homme.
Ah oui.
Vous avez vu, semble-t-il, des truies pleurer.
Alors, il y a deux choses. Il y a
Isabelle Sorrent.
Le regard liquide des truies, et il y a aussi quelque chose de terrible, qui est leur quand ils ont peur au moment de l'abattage. Leurs muscles fondent et ça donne de l'eau. Et du coup, quand on se retrouve avec de la viande qui dégorge beaucoup d'eau dans la poêle, c'est comme des larmes intérieures qui sont dues à l'épouvante, oui.
Alors justement, cela m'a fait penser à un très vieux texte, le De Rerum Natura de Lucrèce, dont je voudrais lire un extrait. Ainsi, devant le temple des dieux magnifiquement ornés, au pied des autels où brûle l'encens, souvent un veau tombe immolé, exhalant de sa poitrine un fleuve chaud de sang. Cependant, sa mère désolée, parcourant les verts pâtis, cherche à reconnaître sur le sol l'empreinte de ses sabots fourchus, fouillant des yeux tous les endroits dans l'espoir d'y revoir peut-être le petit qu'elle a perdu. Immobile à l'orée du bois feuillu, elle l'emplit de ses plaintes et sans cesse revient voir à l'étable le cœur percé du regret de son fils. Donc il y a là,
c'est très beau.
Oui, vous avez la caution de Lucrèce.
J'ai la caution de Lucrèce, et pour gagner celle, je dirais, des auditeurs qui seraient perplexes, on admet volontiers que les chiens vont se laisser mourir sur la tombe de leur maître, que le chat de Churchill a poussé un cri déchirant quand Churchill est mort. Et pourquoi voudrait-on que cet amour des animaux soit exclusif pour les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas capables de l'avoir pour leurs propres enfants? Voilà.
Tout à fait. J'ai lu récemment un article relatant l'histoire d'une vache qui, dans un élevage en plein air, avait caché son veau dans un petit bois attenant à la prairie. Et elle allait l'allaiter dans le bois et ensuite elle revenait seule à la pâture pour ne pas qu'on sache qu'elle avait vêlé et qu'on ne lui enlève pas le veau. Donc effectivement, vous voyez, Lucrèce, c'est d'une parfaite actualité.
Lucrèce est de parfaite actualité. Et alors je voudrais pour finir, parce que vous avez parlé du regard, Isabelle Sorrente, vous soumettre un texte terrible. Il est tiré de ce livre de Gita Sereni, Au fond des ténèbres. C'est un livre, c'est un long entretien avec Franz Tangel, qui était le commandant du camp de Treblinka. Et il lui explique que lui aussi se blindait. Ça qui est extraordinaire. Je me forçais à me concentrer sur le travail et encore le travail. Puis voici ce qu'il dit. Un jour au Brésil, des années plus tard, j'étais en déplacement. Le train s'est arrêté à côté d'un abattoir. Le bétail était dans les enclos. En entendant le train, a trotté jusqu'à la barrière et nous a fixés. Ils étaient tout près de ma fenêtre, serrés les uns contre les autres. Ils me regardaient à travers la barrière. Et j'ai pensé alors, regarde, ça ne te rappelle pas la Pologne, c'est comme ça que les gens regardaient, avec confiance, juste avant d'entrer dans les boîtes. Après ça, je n'ai plus jamais pu manger de conserve. Ces grands yeux qui me regardaient, sans savoir qu'un instant plus tard, ils seraient tous morts. Il s'est arrêté, dit Gita Sereni, il avait les triturés. À cet instant, il parut vieux, fatigué et vrai. Cette étrange prise de conscience à retardement de ce qu'il a fait en regardant un train qui allait vers un abattoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Sorrente?
Je pense que malheureusement, c'est ce que la technologisation, la segmentation et la mise à mort industrielle peuvent faire de nous. Alors heureusement que la prise de conscience arrive, là, dans ce cas-là. Malheureusement, il y a des gens qui passent leur vie entière sans qu'elle arrive jamais.
Cet extrême évoque deux choses, à la fois la lecture d'un éternel Treblinka, le livre de Charles Patterson qui m'a profondément marqué et qui évoque le lien évident entre les camps de concentration et les élevages industriels, et puis un autre détail qui est dû à la physionomie du cochon. Le cochon est un animal qui ne peut pas relever la tête. Donc pour rencontrer le regard du cochon, bien souvent, il faut se mettre à son niveau, il faut s'abaisser. Et là, on rencontre un œil qui est particulièrement expressif et bouleversant, je crois.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Delamo. Merci, Isabelle Sorrente. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages, Règne animal. Jean-Baptiste Delamo, ce livre est publié chez Gallimard. Et votre roman, Isabelle Sorrente, 180 jours, chez Jean-Claude Lattès. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est podcastable pour toujours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Le peuple et les édits. Mes invités seront Patrick Buisson et Alain Minck. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard, à la technique, aujourd'hui, Pierre Monteil, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeannonet.